Cette vidéo est en partenariat avec Hostinger. Salut, aujourd'hui on va s'attaquer à un gros morceau, vous et moi, je le dis depuis 10 ans, le mentalisme c'est pas un don, c'est pas un phénomène paranormal, c'est exactement l'inverse. Finalement, nous sommes tous des mentalistes, vous, moi, etc. Parce que en permanence, vous passez votre temps à traiter de l'information mentalement, à essayer de comprendre les autres et à prendre des décisions, donc vous êtes mentaliste. Mais ce que je veux dire, c'est que souvent tout ça, on le fait un peu mal, on le fait par défaut parce qu'on n'a pas les clés. Alors aujourd'hui, je vous donne 50 clés pour être vraiment le mentaliste qu'il y a au fond de vous. Et je ralentis, mais ce sont vraiment 50 astuces concrètes que j'utilise qui vont vous permettre de mieux exploiter votre cerveau et de comprendre celui des autres. On va parler de mémoire, de calcul, d'influence, même de philosophie. Allez, c'est parti. La première astuce, je vous parle de la cécité d'inattention. C'est le principe fondateur. Notre cerveau ne voit pas que avec ses yeux, il voit aussi avec le faisceau de son attention qui se dirige. Si je vous demande de regarder, ou même mieux, de compter les passes de basket sur la vidéo qui est en train d'être affichée, ben vous ne verrez pas forcément le gorille qui traverse l'écran. Si vous voulez cacher quelque chose, vous devez le mettre là où personne n'a de raison de regarder. Comme votre attention, elle compte, elle ne voit pas le gorille, donc personne ne le voit. Ça marche aussi pour les idées et les pensées, que ce soit pour vous, ce qu'on a envie de vous cacher, ou pour ce que vous voulez cacher à d'autres. Méditez là-dessus. Deuxième astuce, le regard. Les gens regardent ce que vous regardez. C'est aussi bête que ça. Si je regarde ma main gauche, eh bien tout le monde va regarder ma main gauche. Vous pouvez utiliser cette info pour orienter l'œil des autres personnes. Astuce numéro 3, le mouvement courbé. Un mouvement de la main en arc de cercle est beaucoup plus difficile à suivre pour l'œil qu'un mouvement rectiligne. Le cerveau, il veut lisser un peu la trajectoire et donc il va perdre automatiquement de la précision quand il y a des formes comme ça qui sont faites avec les mains. Attention, j'ai une toute petite pause, vous dites, mais attends, mais à quoi ça me sert là de savoir ce genre de choses? C'est un sac d'astuces pour comment fonctionne l'attention. Donc, si vous voulez capter l'attention des gens, par exemple, quand vous faites une prise de parole, vous allez repenser à ça par rapport à vos gestes, par rapport à votre regard. Si vous voulez faire un tour de magie, c'est pareil. Ça peut servir dans plein de domaines. Les astuces, c'est à vous ensuite de les utiliser là où vous en avez besoin. Astuce 4, justement, qui me sert beaucoup pour la scène, c'est la détente post-climax. Le climax, c'est le moment fort, c'est la révélation, c'est la fin du tour de magie, par exemple. Après avoir fait une révélation ou après avoir fait une blague, par exemple, le corps se relâche et c'est à ce moment précis que la vigilance d'une personne tombe à zéro. C'est bon de le savoir pour vous aussi, parce que votre vigilance tombe à zéro dans ce moment-là. En 5, l'effet de hauteur. Votre environnement forme votre pensée. Il y a des études qui montrent que sous un plafond haut, votre pensée devient plus abstraite et plus créative, et sous un plafond bas, on devient un peu plus analytique et on a une pensée un peu plus précise, orientée. Donc si vous voulez une idée de génie, ben sortez, parce qu'il n'y a pas plus haut comme plafond que le ciel. Par contre, si vous devez faire votre déclaration d'impôt, allez dans un bureau un petit peu étroit, bas de plafond. En 6, l'effet Barnum ou l'effet Forer, c'est le secret des horoscopes. On en a déjà beaucoup parlé sur cette chaîne en 10 ans. On a tendance à accepter une description de notre personnalité comme très précise si elle est formulée de manière un petit peu vague et positive. Alors si vous voulez se faire semblant de décrypter une personne, faites-lui des affirmations assez communes comme vous avez un grand besoin d'être aimé, mais vous êtes parfois critique envers vous-même. Ça veut tout dire et rien dire. Et je vous assure que ça marche sur tout le monde, alors que tout le monde pense être une personne différente et spéciale. Parce que tout le monde se pense unique finalement. En 7, vous allez peut-être être pas d'accord avec moi, mais on nous dit souvent de ne pas juger sur les apparences. Pourtant, notre cerveau, c'est une machine à probabilité, à statistique. Et je trouve ça intéressant de travailler sur notre capacité à déduire des traits de caractère fiables à partir d'une séquence d'observation de moins de 5 minutes, par exemple. Faites confiance à votre première intuition instinctive sur une personne, parce que souvent, elle est basée sur des micro-indices que votre conscient n'a pas encore triés et traités. Évidemment, ensuite, rien ne vaut le fait de prendre du recul pour essayer de rationaliser, pour valider ou invalider cette intuition. Astuce 8, vous imitez la posture de l'autre pour créer de l'empathie. Alors attention, si vous faites ça, imitez la même posture que l'autre pour créer de l'empathie, faites attention, faites-le pas au même moment. Si c'est au même moment, ça se voit. Attendez quelques secondes avant d'avoir la même inclinaison de tête ou la même position de bras ou des jambes. Ça s'appelle l'effet caméléon. C'est un accélérateur de confiance sociale parce que ça veut dire on est de la même tribu. Astuce 9, si vous voulez qu'une personne change de comportement, ne lui donnez pas d'ordre. Ça ne marche pas et ça va même au contraire avoir un effet de rejet, un effet inverse. Dites-lui plutôt que la majorité des gens dans sa situation choisissent telle option, parce que l'être humain est un animal social qui a horreur de se sentir exclu de la norme. En 10e astuce, je peux vous parler de la preuve sociale justement. La preuve sociale, c'est exactement la raison pour laquelle il y a des rires enregistrés dans les sitcoms comme Friends, surtout les sitcoms un peu à l'ancienne, parce qu'on utilise le comportement des autres comme un raccourci mental soi-même pour savoir comment réagir et comment se comporter. Et ça, en tant que mentaliste, quand je suis sur scène ou sur un plateau télé, si je montre que j'ai confiance en ce que je fais, eh bien, les gens qui participent à mon numéro ont plus confiance en moi durant le numéro. L'assurance, c'est quelque chose de contagieux. Déjà, 10 astuces sur les 50, je vous ai dit que la vidéo elle allait être généreuse, ça c'était vraiment la base de la base. Histoire de reprendre notre petite respiration avant de continuer, on va parler du partenaire du jour, c'est Hostinger. Si vous cherchez un moyen de créer votre site vous-même, ils ont vraiment la solution. Regardez, tout commence ici. Là, je choisis le nom de domaine de ma marque. Avec le plan business du créateur de site web Hostinger, le nom de domaine est offert la première année et je peux créer jusqu'à 5 adresses email professionnelles. En quelques clics, mon identité en ligne est réservée. Ensuite, je laisse l'IA faire le travail. Je renseigne simplement le nom de ma marque et un court descriptif de mon activité. Pas besoin de compétences techniques ni de design. L'outil analyse mes réponses et prépare un site adapté à mon secteur. Et voilà, en quelques secondes, le site est entièrement généré. Texte, image, structure. Évidemment, je peux tout modifier avec le rédacteur IA, le générateur d'images, les outils SEO ou même rajouter une boutique en ligne. Quand tout me convient, je publie. Mon site est en ligne, je pense vraiment qu'il n'y a pas plus simple ni plus rapide. Pour tester Hostinger et créer votre site, je vous mets le lien en description et avec le code Fabien Licard, vous pourrez obtenir 10% de réduction sur l'abonnement. Passons maintenant aux astuces concernant la mémoire. Vous croyez peut-être et sûrement à tort que c'est une question de capacité à la mémoire, alors que pas du tout, c'est uniquement une question d'astuce. Par exemple, l'astuce 11, l'effet Von Restorff. On retient mieux ce qui est bizarre et ce qui est incongru, ce qui est un peu rigolo, ce qui est un peu choquant. Donc si vous voulez vous souvenir d'avoir éteint le fer à repasser, faites un geste absurde, genre une révérence de théâtre par exemple, en le débranchant, parce que le cerveau va créer un souvenir. Pourquoi ? Parce que l'action sort de la routine. Astuce 12, 13 et 14, utiliser un palais mental express pour tout retenir, avec la spatialisation peut-être pour commencer, c'est-à-dire que notre cerveau n'est pas fait pour retenir des listes de mots par exemple, mais il est excellent pour retenir des lieux et des détails sur les lieux. Ensuite, le placement. Visualisez votre trajet pour aller au travail si vous voulez retenir quelque chose, par exemple une liste de courses. Vous placez sur le trajet mentalement les choses à retenir sur des endroits précis. Par exemple, imaginez qu'il y a votre boulanger au feu rouge. Ça vous fera penser à ce feu-là de passer acheter du pain. Et enfin, le double codage. Pour chaque chose que vous voulez retenir, imaginez une image et un son. Faites travailler en fait tous les éléments de votre mémoire. Si vous devez acheter du pain, eh bien, voyez la baguette, mais aussi essayez d'entendre le craquement peut-être de la croûte quand on pète la baguette en deux. Faites ce genre de choses. Plus vous allez utiliser vos sens, plus l'indice de récupération mémorielle est fort. Et puis si vous voulez vraiment plonger dans la technique du palais mental, j'ai fait une vidéo entière sur le sujet sur cette chaîne. C'est quasiment une formation entière, c'est gratuit évidemment sur YouTube, allez la voir. Astuce 15, le tronçonnage pour la mémoire. Notre mémoire de travail, elle plafonne environ à 7 choses à retenir. On appelle ça 7 items. Pour retenir un numéro de carte bleue ou une longue liste, ne retenez pas des chiffres isolés. Faites des blocs, par exemple 3 blocs de 4 chiffres, donc 3 nombres, eh bien c'est plus simple à retenir pour votre cerveau que 12 chiffres qui ne sont pas réunis en bloc. Astuce 16, sachez que surligner une info ou un cours donne l'illusion à votre cerveau de mieux retenir, mais c'est faux, c'est une activité passive. Le cerveau s'endort quand vous faites ça et retient pas plus. Astuce 17, l'excellente astuce de la récupération active. Vous apprenez quelque chose, c'est super, fermez le livre, prenez une feuille blanche et écrivez tout ce dont vous vous souvenez. C'est l'effort d'aller chercher l'info qui crée la mémoire, pas la lecture en boucle. Astuce 18, je vous rappelle le principe de la répétition espacée, c'est la répétition de Lettner, le principe de Lettner, on appelle ça. N'apprenez pas pendant 5 heures une fois, apprenez 10 minutes, puis revoyez le sujet le lendemain, et puis la semaine d'après, et puis 30 jours plus tard. Il faut combattre la courbe de l'oubli régulièrement. Astuce 19, inspirez-vous de Feynman. C'est une de mes astuces préférées, ça aussi j'en avais fait une vidéo complète un jour, ça a changé ma vie. Pour vérifier si vous maîtrisez un sujet, essayez de l'expliquer à un enfant de 6 ans ou à quelqu'un qui n'y connaît rien. Si vous n'arrivez pas à le faire, si vous devez utiliser un jargon technique par exemple, c'est que vous n'avez pas vous-même compris à fond le sujet. La simplicité, c'est l'étape ultime de la connaissance et de la mémoire. Astuce 20, ne restez pas assis quand vous devez apprendre, mais levez-vous, marchez. L'activation motrice et la navigation spatiale, ça stimule l'hippocampe, hein, c'est la zone de la mémoire. C'est très bon pour le cerveau. Apprendre en bougeant, franchement, il n'y a pas beaucoup mieux. Alors maintenant, je ne sais pas pourquoi, mais dans l'imaginaire collectif, un mentaliste doit être capable de faire des calculs hyper rapides ou des déductions mathématiques très rapides. Pourquoi pas? Comme c'est stimulant pour le cerveau, je ne suis pas contre. Donc voici des astuces que j'utilise et que vous pouvez prendre aussi. Astuce 21, l'estimation de Fermi. Ça, c'est un truc que j'adore et je pense que vous allez adorer. Je ralentis pour que vous compreniez bien. Par exemple, comment on pourrait deviner combien il y a de coiffeurs à Paris sans aller chercher ça sur Google? Comment on peut avoir cette estimation en tête? On décompose. Population de Paris, à peu près 2 millions de personnes. Fréquence d'une coupe de cheveux, Tous les mois, tous les deux mois, on va dire tous les deux mois, je pense rationnellement, ça doit être à peu près tous les deux mois. Combien de clients par jour pour un coiffeur? Je pense qu'un coiffeur peut recevoir, s'il prend le temps de faire ses coupes, une dizaine de clients dans la journée. Donc en quelques calculs simples, en partant du fait qu'il y a 2 millions de personnes à Paris, qu'un coiffeur ça fait à peu près 10 coupes par jour et que les gens ont besoin de se faire couper les cheveux une fois tous les deux mois, on peut arriver à un nombre, à un résultat très étonnamment proche de la réalité. Et ça claque toujours aussi quand on sait faire du calcul mental. D'ailleurs, astuce 22, la règle du 11, ça c'est rigolo. Pour multiplier n'importe quel nombre de deux chiffres par 11, par exemple 35, il suffit d'additionner les deux chiffres de départ, donc 35 c'est 3 plus 5 égale 8, et on place ce résultat au milieu du nombre de départ, donc ça ferait 3, 8, 5, parce que 3 plus 5 égale 8. Hein. Si je veux faire 35 fois 11, 3 plus 5 égale 8, donc je mets le 8 au milieu de 35. C'est trop marrant, ça marche très bien. Tant qu'on est là-dedans, astuce 23, rappelez-vous que pour le carré des nombres qui finissent par 5, il y a une méthode, par exemple pour le carré de 65, ben vous prenez le premier chiffre, 6, et vous le multipliez par le suivant dans l'ordre numérique, donc 6 fois 7, ça fait 42, et vous collez 25 à la fin. Donc le carré de 65, ben c'est 6 fois 7, 42, et 25 à la fin, 4225. C'est le genre de truc, ça te fait passer pour un génie en 2 secondes. Astuce 24, arrondissez tout et faites une estimation de vos calculs en permanence. C'est un peu comme pour l'astuce 21, quand je dois faire un gros calcul, je cherche d'abord une grosse approximation. Ça veut dire un ordre de grandeur. Si je dois faire 113 x 48, bon, c'est un peu compliqué, mais je sais que c'est déjà aux environs de 100 x 50, c'est pas juste, mais c'est très facile à calculer, ça me donne un ordre de grandeur pour pas me tromper après quand je vais regarder le résultat final. On poursuit avec en vrac l'astuce 25, le faux choix. C'est une technique de forçage psychologique très utilisée en mentalisme. Je vous propose deux options, option A ou option B. Est-ce que vous choisissez A ou B? Et peu importe ce que vous allez choisir, j'arrive là où je veux. Par exemple, je vais vous dire, est-ce que vous préférez qu'on commence par la main droite ou la main gauche? Et si vous me dites la main droite, je vais dire, bah ok, on prend la droite. Et si vous me dites la main gauche, je vais dire, d'accord, et ben on élimine la main gauche et du coup, il nous reste la droite. On dirait pas, mais là, c'est une grosse astuce psychologique dont on se sert dans les spectacles que je viens de vous donner. Et le plus drôle, c'est que maintenant que vous la connaissez, si un bon mentaliste ou un bon magicien se sert de ce principe, vous n'allez même pas vous en rendre compte. Et c'est assez incroyable. Astuce 26, attention au biais de confirmation, c'est notre plus grand ennemi. Nous avons tendance à chercher uniquement quasiment les informations qui confirment ce qu'on pense déjà. Pour être un vrai mentaliste, cherchez activement des preuves que vous avez tort. C'est comme ça qu'on évite de se faire manipuler par ses propres croyances et surtout, il faut admettre qu'on a tort quand c'est le cas. Astuce 27, sachez qu'en négociation, le premier chiffre qui est lancé va ancrer la discussion. C'est un point de référence. Si je vous dis que mon travail il vaut X euros, et si on descend ensuite de moitié, le nouveau prix va paraître pas cher par rapport au début. Mais si j'avais commencé par un prix plus bas, et que j'avais fait la même réduction numérique, eh bien finalement, la réduction elle aurait eu moins d'impact. Donc soyez toujours le premier à donner un chiffre ou dénoncer l'ancrage qui est fait par quelqu'un d'autre immédiatement. Astuce 28, on accorde plus de valeur à un objet simplement parce qu'on possède cet objet. Ça, c'est incroyable. Quand on sait ça, on a une autre vision des choses. C'est pour ça que les périodes d'essai gratuites, ça marche si bien, par exemple, dans le commerce. Parce qu'une fois que le produit est chez vous, eh bien, il vaut plus à vos yeux parce qu'il est à vous et ça devient douloureux de s'en séparer. Astuce 29, avant de lancer une idée ou une expérience, imaginez que nous sommes dans 6 mois et que c'est un échec total. Et vous vous demandez qu'est-ce qui a mal tourné, qu'est-ce qui a causé ça. Et ça évite que notre optimisme ou que la dopamine que génère notre cerveau quand on se lance quelque chose, eh bien, nous cache un petit peu les angles morts et les points faibles. Ce qui me fait penser en astuce 30 au rasoir d'Occam entre deux explications, souvent la plus simple et généralement la meilleure. Si un mentaliste semble lire dans vos pensées, le rasoir d'Occam dit qu'il est plus probable qu'il utilise des astuces, une illusion ou des statistiques ou de l'observation et des biais plutôt qu'il ait une connexion directe avec votre cerveau. Ben c'est vrai, ça marche pour plein de choses dans votre vie pro et perso, pensez au rasoir d'Occam. Ça va toujours, on vient de faire plus de la moitié, surtout, on continue maintenant avec un truc passionnant, la psychologie sociale. Astuce 31, je vous parle de l'effet Benjamin Franklin. C'est un truc hyper contre-intuitif. On pense qu'il faut rendre service aux gens pour qu'ils nous aiment. C'est un peu dans notre logiciel interne, c'est comme ça. En fait, c'est complètement l'inverse. Si vous demandez un petit service à quelqu'un, par exemple emprunter son stylo ou vous lui demandez un conseil, un truc, pour résoudre la dissonance cognitive que pourrait avoir la personne va se demander pourquoi elle vous aide. Et elle va conclure inconsciemment en se disant « si je l'aide, bah, c'est que la personne est sympa. Si je lui prête mon stylo, c'est que finalement je l'aime bien. » Astuce 32, la règle des 3 oui. Avant de faire une demande importante, posez 3 questions simples dont la réponse est forcément oui à la personne. Parce que ça va créer en elle un élan psychologique de consentement, on appelle ça un yes set, qui va rendre le quatrième oui beaucoup plus probable. Astuce 33, la très connue, mais il ne faut pas l'oublier, technique du pied dans la porte. Vous obtenez une micro-concession sur quelque chose, hein, ça ressemble un peu à la précédente, avant de créer votre vraie demande. Par exemple, si quelqu'un accepte de porter, je sais pas moi, un badge ou un pins pour une cause, eh bien cette même personne sera 10 fois plus enclin après à faire un don financier plus tard pour cette même cause. Et en parlant de porte, astuce 34, c'est une autre astuce, c'est l'astuce de la porte au nez. Donc ça, c'est l'inverse. Vous demandez quelque chose d'énorme, d'exorbitant à quelqu'un, quelque chose que l'autre va forcément refuser. Et immédiatement derrière, vous faites une concession vers en fait ce qui est votre vraie demande, quelque chose qui a l'air d'un coup beaucoup plus raisonnable et l'autre se sent obligé d'accepter votre effort de négociation. C'est le principe de réciprocité. On a l'impression que tu as mis quelque chose sur la table, donc il faut mettre quelque chose en face. En 35, l'astuce 35, des études de l'université de Yale, je vous mettrai la source dans la description si j'y pense, mais sinon ça se trouve assez facilement sur Google, ont montré que tenir une boisson chaude, donc du café, du thé, quelque chose, ça va modifier la perception des autres vis-à-vis de vous, parce que vous allez avoir les mains plus chaudes. Et on juge les gens comme étant plus généreux, plus amicaux, quand elles ont les mains chaudes. Je trouve ça assez rigolo. Astuce 36, la plupart des gens ont horreur du vide dans une négociation ou une discussion après que l'autre a fini de parler. Ne répondez pas tout de suite. Attendez 3-4 secondes, regardez la personne avec bienveillance et l'autre va presque toujours ajouter une information, une précision, une concession pour combler le silence parce que ça crée une surcharge cognitive trop dure à gérer pour la personne en face de vous. Astuce 37, le recadrage. C'est pas ce que vous dites qui compte le plus, c'est aussi comment vous présentez, ce que vous présentez. Je vous donne un exemple concret, vous allez voir que la manipulation n'est pas loin. Dire qu'une viande est à 75% maigre, eh bien c'est plus vendeur que de dire qu'elle contient 25% de gras. Parce qu'en fait, on ne présente pas la même chose. Pourtant, c'est la même information, mais l'impact émotionnel, elle est opposée. Astuce 38, utilisez à bon escient la prétérition. C'est une figure de style, la prétérition, où on affirme ne pas vouloir parler d'un sujet tout en parlant quand même du sujet. Par exemple, je ne vais pas m'étendre sur l'importance de vous abonner et le fait que ça soutienne la chaîne. Ça, vous le savez. Ben voilà, je viens de le souligner, tout en paraissant en fait ne pas vouloir en parler. C'est très puissant pour planter une idée sans en assumer la charge agressive parfois. Avec par exemple un exemple de la vie pro, quelqu'un qui va dire « je vais pas m'étendre sur votre retard de ce matin parce que ce qui m'importe c'est le dossier ». Ça semble magnanime, pourtant il y avait un message là-dessous. Dans le même genre, en astuce 39, demandez simplement à quelqu'un « est-ce que tu penses que c'est vrai ?» avant qu'il ne s'exprime sur un sujet. Son cerveau, il va passer de la réaction émotionnelle à l'analyse de la vérité et c'est beaucoup mieux. Astuce 40, sachez que notre cerveau utilise la facilité de traitement comme indice de vérité. C'est-à-dire que si une phrase est facile à lire, si elle sonne bien, tu vois, limite si elle rime, ou s'il a entendu cette phrase plusieurs fois, donc qu'il a l'impression de la connaître, eh bien le cerveau a tendance à croire qu'elle est vraie. Donc pour faire passer un message, il faut être simple et répétitif. Et c'est pour ça que dans le commerce ou en politique, ça utilise des slogans rythmés, des petits trucs courts qui riment. Par exemple, moi je dis régulièrement que je m'appelle toujours Fabien Licard. C'est mon slogan. On continue avec quelques astuces pour mieux gérer son cerveau au quotidien. L'astuce 41 que j'ai déjà mentionné plusieurs fois ici même, c'est la règle des 2 minutes. Si une tâche peut être accomplie en moins de 120 secondes, eh bien faites-la immédiatement. L'astuce 42, c'est l'effet Zeigarnik. J'en avais parlé sur la chaîne secondaire. Ça stipule que nous nous souvenons mieux des tâches interrompues que des tâches terminées. C'est pour ça d'ailleurs que séries télévisées finissent souvent par un petit cliffhanger parce qu'après on repense à la série, on a envie de voir la suite. Pour rester concentré sur un projet, il vaut mieux du coup éviter de le terminer complètement lorsqu'on souhaite faire une pause. Il vaut mieux se laisser une petite tâche facile à terminer pour s'y remettre plus facilement derrière. L'astuce 43, ça consiste à éviter de dire « je vais faire du sport ». Il faut dire plutôt « quand je rentrerai du travail » ou « si je rentre du travail, alors j'enfile mes baskets ». Ça crée un automatisme avec le « si alors » qui est vraiment très intéressant parce que ça court-circuite la volonté. L'astuce 44 que j'utilise, ça consiste à associer une nouvelle habitude à une ancienne. Par exemple, si vous voulez méditer et vous n'avez pas le temps ou la motivation, eh bien faites-le juste après vous êtes brossé les dents. Parce que le brossage de dents, c'est une habitude et le brossage de dents va devenir un signal neuronal qui va vous aider à ancrer la nouvelle habitude. Astuce 45 très puissante, le timeboxing. Une tâche va prendre tout le temps que vous lui accordez, c'est la loi de Parkinson. Si vous vous donnez 2 heures pour faire quelque chose, ben vous allez mettre 2 heures à faire cette chose. Si vous vous donnez 45 minutes, vous serez étonné de voir à quel point vous pouvez être efficace. L'astuce 46 me permet de vous dire qu'on oublie souvent les prénoms parce qu'ils sont arbitraires. Donc pour plus jamais oublier un prénom, répétez-le immédiatement dans la conversation lorsque quelqu'un se présente à vous. Salut, je m'appelle Sarah, enchanté Sarah. Et cherchez un point de détail sur son visage qui rappelle son prénom. Par exemple, Sarah, ça me fait penser à Sarah. Peut-être qu'elle a un grain de beauté. Ben, je vais me dire, tiens, c'est comme un grain de beauté dans le sable. C'est des phrases un peu idiotes, mais ça s'efface plus. Et en plus, c'est incroyablement respectueux de se rappeler les prénoms des gens. Astuce 47, accordez-vous des pauses quand vous parlez. Dans une conversation, prenez 3 secondes de silence avant de répondre. Déjà, ça démontre que vous maîtrisez votre temps et votre réponse, elle est plus réfléchie, ça va augmenter votre charisme. Astuce 48, pour vraiment comprendre un sujet, pour remporter un débat, essayez de construire l'argument le plus solide possible, pas plein de petits arguments d'un coup, le plus solide possible pour la thèse adverse. C'est l'inverse de la technique de l'homme de paille. Si vous parvenez à contrer directement la meilleure version de l'argument possible de l'autre, la victoire est forcément assurée. Astuce 49, votre cerveau et votre corps est connecté par un truc qui s'appelle le nerf vague. Avant de prendre une décision importante, fermez les yeux et scannez vos sensations corporelles. Ça va apaiser votre corps parce que si vous ressentez une oppression thoracique ou un nœud à l'estomac, ça indique que votre système limbique a détecté un risque que votre cortex préfrontal tente de rationaliser. Alors écoutez votre corps. Et enfin, l'astuce ultime, c'est de reconnaître qu'on ne sait pas grand-chose finalement, on ne sait rien. Le monde qui vous entoure, la société, la technologie, tout est en constante évolution, la science progresse. Alors il faut garder une porte ouverte à l'erreur intérieurement. Il ne faut jamais se considérer supérieur à qui que ce soit ou quoi que ce soit et jamais se dire « non mais ça je connais, ça tout le monde connaît ». En fait, il faut être humble vis-à-vis de ses connaissances. Déjà qu'on dit « non mais ça je connais, tout le monde connaît ». Non, tu le connais depuis que tu le connais, mais avant tu ne le connaissais pas. Il faut avoir une curiosité insatiable et c'est cette véritable remise en question permanente qui peut faire de vous, de nous, de moi, une personne maîtresse de son esprit. Vous voyez ce que je veux dire? Même quand on pense bien faire, même quand on pense bien dire, il y a sûrement des aspects à améliorer en nous qu'il faut accepter de reconnaître régulièrement. Je vous assure que ça favorise vraiment la progression et ça évite les conflits avec son ego. Merci encore à Hostinger d'avoir sponsorisé cette vidéo. Vous pouvez découvrir leur service via le lien dans la description et utiliser mon code FabienOlicard pour avoir 10% de réduction supplémentaire. Je suis content qu'on ait pu mettre cette vidéo en place. Ça paraît rien, mais c'était un énorme travail d'écriture, de réflexion et beaucoup de travail aussi de montage quand même, mine de rien. Merci Loïc. Mais grâce à cette vidéo, ça fait aussi un effet FAQ. Je réponds à beaucoup de choses que j'ai reçu en DM, Instagram, par mail, plein de questions que vous m'avez posées sur plein de domaines, j'ai essayé d'y répondre dans ce stock de 50 astuces qui me servent encore une fois vraiment et qui peuvent vous servir. Je ne vous ai pas donné des plug and play avec des exemples concrets d'application. C'est à vous de voir ce que ça peut faire dans votre vie, si vous pouvez vous en servir ou pas, que ce soit au départ sur l'attention ou sur le calcul ou sur la mémoire ou sur la psychologie, etc.